Je sais pas, mon chéri. C'est toi qui décideras.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même wagon à croire que tout le monde aime la même chose?
C'est la mode.
Mais il y en a pour tous les goûts.
C'est quoi la mode?
La mode repose sur le mimétisme et le jeu. Et c'est un fait social, dit fait social total, car il implique profondément les individus et touche simultanément aux environnements artistiques, économiques, politiques, sociologiques, des groupes sociaux concernés, mais aussi de ceux qui sont à leur contact.
Ah, oh,
oh,
oh. L'écologie, c'est une mode?
Non, c'est une nécessité.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture, attention au départ!
C'est les allumeurs de réverbères.
Au sommaire ce mois-ci, dans les allumeurs de réverbères, nous commencerons par un conte du Portugal, traduit du portugais par Bernard Tissier et édité par les éditions Chandaigne en 2016, intitulé « Le charbonnier ». Cet instant sera suivi par la rubrique « Texte historique » avec la lecture de la préface de Jean-Paul Sartre au livre « Les damnés de la terre » de Frantz Fanon, paru en 1961. Viendra ensuite la rubrique « Environnement » dans laquelle Anne-Laure nous parlera du lierre. Et pour clore l'émission, l'instant code du travail et convention collective pour nous rappeler les principes de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes selon le code du travail. À tous, chers auditeurs, recevez ce vœu. Force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Bonne lumière à tous. Allez hop, c'est parti, vous écoutez les allumeurs de réverbères.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant qui compte.
Les allumeurs de réverbères.
Conte du Portugal, traduit du portugais par Bernard Tissier, éditeur Chandaigne 2016, illustration Philippe Dumas. Le charbonnier. Il était une fois un roi épris de chasse. Un jour, lancé à la poursuite d'un gibier, il s'éloigna de ses gens et s'aventura seul dans une forêt. Découvrant un charbonnier au travail, il s'en approcha et lui demanda « À te voir si ardent à la besogne, je présume que tu gagnes pas mal d'argent, n'est-ce pas ?»«
Sire, je gagne 240 euros par jour. J'en prête 80 à intérêt, 80 sont pour le remboursement d'une dette et 80 pour faire vie commune, ma femme et moi. » Le roi, dont la cassette, pour considérable qu'elle fût, ne suffisait pas à sa dépense, s'émerveilla de ce que le charbonnier non seulement eût assez de ses maigres revenus pour satisfaire à ses besoins et obligations, mais pût par ailleurs en prélever le tiers pour consentir des prêts. Le charbonnier précisa « Je prête en élevant mes enfants, dont l'industrie me sera d'un précieux secours quand je ne serai plus en état de travailler. » Je rembourse en pourvoyant à la subsistance de mes parents qui sont vieux et impotents. Et avec les 80 restants, j'ai de quoi nourrir les deux, ma femme et moi. » L'explication plut infiniment au roi, qui lui interdit expressément de la répéter à quiconque avant d'avoir vu à 100 reprises le visage de son souverain. Le charbonnier en fit la promesse, et le roi rejoignit ses compagnons de chasse. De retour au palais, il manda ses conseillers, ministres et hauts dignitaires de la cour, et leur soumit ce problème. Comment un homme gagnant seulement 240 euros par jour pouvait-il s'acquitter d'une dette, consentir un prêt, assurer son entretien et celui de son épouse? Il ajouta, « Celui qui résoudra cette énigme, je l'investirai de ma confiance. Les autres seront bannis ou exécutés, car je ne saurais tolérer la présence d'ignorants et d'imbéciles à la cour. » Il s'ensuivit une activité fébrile et angoissée. Ceux qui étaient savants mirent toute leur science à contribution. Ceux qui ne l'étaient pas compulsèrent nuit et jour des ouvrages érudits, les uns et les autres sans aucun profit. Pour avoir perdu dans cette affaire l'immense crédit dont il jouissait auprès du roi depuis de longues années, le premier ministre, vieillard de beaucoup d'entendement, vaguait triste comme la mort dans les corridors du palais. Un jour, où rempli d'amertume, il avait choisi d'aller à travers bois pour méditer à loisir sur les caprices de la fortune, il croisa le charbonnier, lequel le salua, et s'étonna de l'abattement de son excellence, alors que celle-ci bénéficiait de la considération générale. Le premier ministre rapporta les propos du roi au charbonnier, qui lui dit en riant « Je sais où le roi veut en venir, mais là-dessus, je suis contraint au silence tant que je n'aurai pas vu 100 fois son visage. » Le premier ministre, prompt à saisir le sous-entendu, prit congé en hâte afin de se procurer 100 pièces d'or. Au jour fixé par le souverain, le conseil se réunit. Le roi dit que l'heure était venue de répondre à la question qu'il avait posée. Un silence accablé s'installa, auquel mit fin le premier ministre au bout d'un temps qui sembla une éternité. Ce fut pour publier la solution du problème devant l'assemblée pétrifiée de surprise et blême de dépit. Le roi, pestant contre le charbonnier, qui n'avait pas tenu parole, se rendit chez lui dans le dessein de lui infliger un châtiment exemplaire. Loin de s'émouvoir, l'homme ouvrit un coffret et en fit tomber les pièces d'or. « Sire, vous m'aviez imposé de ne dévoiler à personne la réponse à certaines devinettes tant que je n'aurais pas vu 100 fois votre visage. Le premier ministre m'a donné ces 100 pièces d'or qui, toutes, sont à votre effigie. Je n'ai donc pas enfreint vos ordres. » Le roi s'esclaffa et voulut absolument récompenser la finesse du charbonnier. Celui-ci se contentait de ce qu'il avait et ne désirait rien de plus, mais le roi insista tellement qu'il finit par dire « Il n'y a qu'une chose que j'accepterai de votre majesté. Parle ! Qui possède une tête comme la tienne peut tout exiger de moi. J'aimerais simplement que votre majesté m'autorise à percevoir 5 crocs sur chaque mari ayant peur de sa femme. » Quelle absurdité ! Où trouver un homme assez stupide pour se laisser gouverner par sa femme ? Dans mon royaume, ton idée serait d'un maigre rapport. Je t'engage plutôt à me demander quelque chose d'importance qui t'aide à conquérir une position enviable dans le monde. » Mais le charbonnier n'en démordait pas. Il n'accepterait rien de son souverain, sinon le droit qu'il avait sollicité. De guerre lasse, le roi céda. À quelque temps de là, le roi, qui observait les alentours depuis la terrasse du palais, aperçut un carrosse transportant un haut personnage, en qui il reconnut bientôt le charbonnier. Il l'envoya chercher et voulut savoir comment il était parvenu à la richesse. « Comment ? Mais en usant du privilège que vous m'aviez concédé, sire. Avant d'entrer dans les détails, accordez-moi de vous décrire une femme dont j'ai la connaissance depuis peu. Elle est belle et fraîche comme la rose qui vient d'éclore. Ses cheveux sont dorés comme les blés. Ses lèvres ont la couleur et le parfum de la fraise. Délice, ses mains possèdent l'élégance. Sa démarche, noble et légère, l'impératrice des fées l'envirait. Quant à ses yeux, sire, il n'y a rien à quoi je puisse les comparer. » Le roi buvait les paroles du charbonnier, qui, voyant paraître la reine, s'écria avec ferveur. « Sire, la beauté de cette créature est telle que j'ai résolu de vous la présenter dès que possible. » Le roi l'interrompit d'un geste. « Pas si fort, voici la reine !» Le charbonnier éclata de rire. « Votre majesté me doit 5 crocs. » Honteux, le roi fut obligé d'admettre qu'il était facile de s'enrichir en percevant 5 crocs sur les maris qui craignaient leur épouse.
Les allumeurs de réverbère.
Cet instant de relaxation.
allumeurs de réverbères.
Les discours politiques!
Mais tu vas arrêter de crier, s'il te plaît.
Bah, tout le monde crie, maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison. Bah oui, c'est la mode.
C'est la mode.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Il y a encore des gens qui savent parler normalement.
Où?
Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes,
réalistes, positifs.
Aventuriers?
Des résistants, avec un grand R.
Oh. Et qu'est-ce qu'ils font?
Ils s'occupent des autres.
Oh.
Allez, c'est parti, mes petits loups. C'est la pause campagne, on prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
Vous savez bien que nous sommes des exploiteurs. Vous savez bien que nous avons pris l'or et les métaux, puis le pétrole des continents neufs, et que nous les avons ramenés dans nos vieilles métropoles. Non sans d'excellents résultats, des palais, des cathédrales, des capitales industrielles. Et puis quand la crise menaçait, les marchés coloniaux étaient là pour l'amortir ou la détourner. L'Europe, gavée de richesses, accorda de jurer l'humanité à tous ses habitants. Un homme chez nous, ça veut dire un complice, puisque nous avons tous profité de l'exploitation coloniale. Ce continent gras et blême finit par donner ce que Fanon nomme justement le narcissisme. Cocteau s'agaçait de Paris, cette ville qui parle tout le temps d'elle-même, et l'Europe, que fait-elle d'autre? Et ce monstre sur-européen, l'Amérique du Nord, quel bavardage, liberté, égalité, fraternité, amour, honneur, patrie, que sais-je. Cela ne nous empêchait pas de tenir en même temps des discours racistes, sales nègres, sales juifs, sales ratons. De bons esprits, libéraux et tendres, des néocolonialistes en somme, se prétendaient choqués par cette inconséquence, erreur ou mauvaise foi, rien de plus conséquent chez nous qu'un humanisme raciste, puisque l'Européen n'a pu se faire homme qu'en fabriquant des esclaves et des monstres. Tant qu'il y eut un indigénat, cette posture ne fut pas démasquée. On trouvait dans le genre humain une abstraite postulation d'universalité qui servait à couvrir des pratiques plus réalistes. Il y avait de l'autre côté des mers une race de sous-hommes qui, grâce à nous, dans 1000 ans peut-être, accéderait à notre état. Bref, on confondait le genre avec l'élite. Aujourd'hui, l'indigène révèle sa vérité. Du coup, notre club si fermé révèle sa faiblesse. Ce n'était ni plus ni moins qu'une minorité. Il y a pis, puisque les autres se font hommes contre nous, il paraît que nous sommes les ennemis du genre humain. L'élite révèle sa vraie nature, un gang. Nos chères valeurs perdent leurs ailes. À les regarder de près, on n'en trouvera pas une qui ne soit tachée de sang. S'il vous faut un exemple, rappelez-vous ces grands mots. Que c'est généreux la France. Généreux, nous. Et ces tifs, et ces 8 années de guerre féroce qui ont coûté la vie à plus d'1 million d'Algériens. Et là, j'ai gêne. Mais comprenez bien qu'on ne nous reproche pas d'avoir trahi je ne sais quelle mission, pour la bonne raison que nous n'en avions aucune. C'est la générosité même qui est en cause. Ce beau mot chantant n'a qu'un sens, statut octroyé. Réclamer et renier tout à la fois la condition humaine, la contradiction est explosive. Aussi bien explose-t-elle, vous le savez comme moi, et nous vivons autant de la déflagration que la montée des naissances accroisse la disette que les nouveaux venus aient à redouter de vivre un peu plus que de mourir. Le torrent de la violence emporte toutes les barrières. En Algérie, en Angola, on massacre à vue les Européens. C'est le moment du boomerang, le troisième temps de la violence. Elle revient sur nous, elle nous frappe, et pas plus que les autres fois, nous ne comprenons que c'est la nôtre. Les libéraux restent hébétés. Ils reconnaissent que nous n'étions pas assez polis avec les indigènes, qu'il eût été plus juste et plus prudent de leur accorder certains droits dans la mesure du possible. Ils ne demandaient pas mieux que de les admettre par fournée et sans parrain dans ce club si fermé, notre espèce. Et voici que ce déchaînement barbare et fou ne les épargne pas plus que les mauvais colons. La gauche métropolitaine est gênée.
Elle connaît le véritable sort des indigènes, l'oppression sans merci dont ils font l'objet. Elle ne condamne pas leur révolte, sachant que nous avons tout fait pour la provoquer. Mais tout de même, pense-t-elle, il y a des limites. Ces guerriers roses devraient tenir à cœur de se montrer chevaleresques. Ce serait le meilleur moyen de prouver qu'ils sont des hommes. Parfois, elle les gourmande. « Vous allez trop fort. Nous ne vous soutiendrons plus. » Ils s'en foutent. Pour ce que vaut le soutien qu'elle leur accorde, elle peut tout aussi bien se le mettre au cul. Dès que leur guerre a commencé, ils ont aperçu cette vérité rigoureuse. Nous nous valons tous tant que nous sommes. Nous avons tous profité d'eux. Ils n'ont rien à prouver. Ils ne feront de traitement de faveur à personne. Un seul devoir, un seul objectif, chasser le colonialisme par tous les moyens. Jean-Paul Sartre, préface aux Damnés de la Terre de Frantz Fanon, 1961.
La rubrique environnement.
Les allumeurs de réverbères.
Nous allons parler du lierre. Le lierre, qui est une plante qui peut être soit rampante, soit grimpante, est souvent vu plutôt comme quelque chose d'envahissant, alors qu'en réalité, le lierre a plein de chouettes qualités. Quand il grimpe comme ça aux arbres, alors on peut tous avoir comme ça l'image un peu du lierre qui grimpe sur un chêne, d'ailleurs c'est souvent très beau, tout au moins quand on aime les arbres. Quand le lierre monte sur un chêne, il est en symbiose avec lui. C'est-à-dire qu'on va souvent se dire « Oh là là, le lierre vient envahir le tronc, peut-être qu'il étouffe cet arbre. » On va souvent avoir tendance à avoir envie comme ça de l'enlever, peut-être arracher le lierre pour aider l'arbre. Et en réalité, c'est souvent une chose qu'il faut éviter de faire. Sauf si on sent que l'arbre est vraiment mal en point, bon, on va tout faire pour essayer de l'aider. Mais c'est rarement le lierre qui est la cause d'un affaiblissement d'un arbre. Donc concrètement, le lierre, c'est un ami, souvent, pour l'arbre. Alors je dis l'arbre en général parce que vraiment, le lierre va avoir envie d'être en symbiose avec beaucoup d'arbres. En tout cas, ce sont vraiment des espèces qui cohabitent, il faut le savoir, et qui au passage, le lierre abritant des tas de petits insectes, gardez le lierre plutôt que de l'enlever. L'autre avantage du lierre, c'est une utilisation au quotidien, qui est en plus assez simple. Donc à ce moment-là, si vraiment vous voulez enlever un petit peu de lierre sur vos arbres, et bien à ce moment-là, autant le réutiliser derrière. Et il y a cette fameuse lessive de lierre, dont on reparle depuis quelques années. C'est vrai que c'était une pratique très classique chez nos ancêtres. Nos ancêtres d'ailleurs, pas si loin que ça, en l'occurrence. Et donc, le lierre grimpant est le lierre qu'il faut utiliser pour faire de la lessive pour les vêtements, car il contient beaucoup de saponine. Et la saponine, c'est ce fameux élément qui va avoir un pouvoir lavant, tout simplement. La recette est assez simple. L'idée, c'est d'avoir 50 feuilles de lierre pour 1 litre d'eau. Après, à vous de multiplier pour le nombre de litres de lessive que vous voulez. Donc, si vous voulez 2 litres de lessive, et ben, vous allez cueillir 100 feuilles de lierre grimpant. Voilà, etc. Si vous souhaitez conserver de la lessive de lierre plus longtemps, il sera conseillé, car c'est vrai qu'elle a une date limite de consommation dans le temps, donc c'est effectivement pas plus d'un mois une lessive de lierre. Tous les produits naturels ne contiennent pas de conservateurs, donc vous faites 1 litre que vous gardez pour vous. Si vous en avez fait plus que ça, vous le mettez au congèle tout simplement. Maintenant, comment faire cette lessive de lierre? Eh bien, super facile. Il vous suffit donc de cueillir votre lierre, de le laver à l'eau claire pour enlever les impuretés, enlever la poussière, enlever tous les déchets, même végétaux ou de crottes d'oiseaux qui peuvent se trouver sur ce lierre. Faire bouillir le lierre dans de l'eau. Donc, effectivement, comme on a dit, si vous voulez 1 litre de lessive, eh bien, faire bouillir vos 50 feuilles de lierre dans 1 litre d'eau. Vous allez attendre que tout ça soit porté à ébullition. Et effectivement, pendant ce temps-là, la lessive va se colorer, se charger de la saponine. Donc, il va y avoir une petite mousse aussi qui va commencer à se former, qui nous prouve que le lierre a bien voilà, ce savon, hein, cette saponine qui est là en lui. Cette lessive, une fois qu'elle sera portée à ébullition, on attend un petit peu hein, derrière l'ébullition à feu doux. On attend peut-être 10 à 15 minutes à feu doux. Et on éteint tout ça. Et après, on filtre. Donc, tout simplement, on enlève les feuilles de lierre et on obtient cette lessive qui est un liquide marronâtre. Donc, ça peut sembler surprenant. On peut ajouter, sur la fin de cuisson, dirons-nous, du bicarbonate de soude. Très peu. Hein. Dans 1 litre, on ne va pas rajouter plus de 2 cuillères à café de bicarbonate. Hein. Pas la peine d'en mettre beaucoup, mais c'est vrai que ça vient donner un petit peu plus de pouvoir l'avant à cette lessive. Vous pouvez y ajouter des huiles essentielles, même si en réalité, le pouvoir de l'huile essentielle, l'odeur de l'huile essentielle, reste peu dans la lessive de lierre. Je ne suis pas sûre de savoir pourquoi, mais de toutes mes expériences et des conversations, les odeurs d'huile essentielle ne restent pas. Donc, bon, vous pouvez en mettre, mais vous serez peut-être déçu que votre lessive ne sente pas l'huile désirée.
Les allumeurs de Réverbère vous présentent l'instant code du travail et convention collective.
C'est les allumeurs de Réverbère.
Code du travail, partie législative. Troisième partie, durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale. Livre 2, salaire et avantages divers. Titre 2. Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, chapitre 1er, principes. Article L3221-1. Les dispositions des articles L3221-2 à L3221-7 sont applicables, outre aux employeurs de droit privé et à leurs salariés, à ceux non régis par le Code du travail et notamment aux agents du droit public. Article L3221-2. Tout employeur assure pour un même travail et pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Article L3221-3. Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. Article L3221-4. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses. Article L3221-5. Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Article L3221-6. Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon les normes identiques pour les femmes et pour les hommes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L3221-2. Article L3221-7. Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaire, un règlement ou barème de salaire résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupe d'employeurs et qui, contrairement aux articles L3221-2 à L3221-6, comporte pour un ou des salariés de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale. La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Bravo, le code du travail ! Bravo !
C'est beau ça, maman, hein ?
Oh oui, une belle avancée.
On appelle ça le progrès.
Et comme disait Monsieur Ambroise Croizat, le progrès est une création continue.
Nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Allumeurs de Réverbère. D'ici là, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur le site internet allumeurs-de-reverbère.fr, sur le site de votre radio préférée Jet FM et sur les réseaux sociaux. Cette émission a été réalisée par Myriam Samour avec la participation d'Anne-Laure Rousseau, habillage musical par Happy London Call. Nous vous souhaitons force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine.